Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 29 avril. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et dans les séries SBS Examines, on reviendra sur les élections fédérales du 3 mai prochain. Et au sommaire de ce bulletin de ce mardi 29 avril, le Parti travailliste a publié ses estimations budgétaires, célébrant le plus important redressement budgétaire jamais enregistré au cours d'une législature, afin de contraindre la coalition à publier ses propres calculs. La coalition a cherché à attribuer la responsabilité de la hausse du coût de la vie au Premier ministre, affirmant que les Australiens ne se sentent pas mieux sous la direction du Parti travailliste. L'ancien ministre libéral Ken Wyatt est intervenu dans le débat des cérémonies de bienvenue au pays, Welcome to Country, qualifiant la position de la coalition de source de division. Le Parti travailliste a publié ses estimations budgétaires préélectorales, célébrant le plus important redressement budgétaire jamais enregistré au cours d'une législature, afin de contraindre la coalition à publier ses propres calculs. Ce budget comprend environ 6,4 milliards de dollars d'économies grâce à la baisse des frais de conseil par rapport au dernier budget fédéral, ainsi que 760 millions de dollars grâce à l'augmentation des frais de demande de visa pour les étudiants. Plus tôt, S&P Global Ratings avait averti que la notation de la dette souveraine AAA de l'Australie pourrait être menacée si les engagements de campagne électorale se traduisaient par des déficits structurels, des dettes et des charges d'intérêt les plus importants. Le trésorier Jim Chalmers a réagi. On l'écoute.
The biggest risk to our AAA credit rating is Peter Dutton and the Coalition. They won't come clean on their cuts. They've got more than $60 billion of commitments. They won't say where the money's coming from. They've got a $600 billion off-budget fund on the way, which is their nuclear reactors. And so what we've shown and what the ratings agencies will know is the budget under us is in a stronger position at the end of the election campaign than it was at the beginning.
Angus Taylor, le porte-parole de l'opposition au Trésor, a rejeté la faute sur le trésorier après l'avertissement de l'agence de notation. Angus Taylor affirme que c'est le Parti travailliste et non la coalition qui représente le plus grand risque pour l'économie.
We know from the last budget, we know that Labor is delivering 10 consecutive deficits, red ink, over the course of the next decade, $180 billion of deficits over the forwards, including this year. And that's heading us towards $1.2 trillion of debt. And the costings today only reinforce that.
Anthony Albanese a présenté son plan comme un choix entre continuer à construire l'avenir de l'Australie ou revenir en arrière, affirmant que le Parti travailliste offre une certitude en cette période incertaine. Il affirme que la coalition a modifié ses politiques tout au long de la campagne. Le Premier ministre et le chef de l'opposition se sont affrontés dimanche dernier lors du quatrième et dernier débat des chefs organisé sur Channel 7.
Labor has a real plan for cost of living support today whilst building with investment for tomorrow. Tax cuts for every Australian taxpayer, strengthening Medicare, including through our 1-800 Medicare line. making more things here in Australia, 20% cut in student debt and a 5% deposit for first homeowners.
Peter Dutton, le chef de l'opposition, soutient que la coalition apportera un leadership fort en ces temps incertains et incarnera le changement.
This election is all about who can best manage the Australian economy. And if we can manage the economy well, it means that we can bring inflation down. It means that we can help families with the cost of living crisis that this government's created. We live in the best country in the world, but we do know that many families are doing it tough. And as we've moved around the country, we've spoken to families literally in tears. They can't afford to put food on the table. They've stopped the registration renewal on their motor vehicle or on their house. They have had a tough 3 years under this government.
Le Premier ministre a annoncé une promesse de 20 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre de réadaptation post-traumatique pour femmes et enfants. Il affirme que ce financement permettra de fournir des services de première ligne à jusqu'à 500 victimes de violences conjugales et sexuelles. Anthony Albanese affirme qu'une réponse sociétale globale est nécessaire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Young people at a very young age, when they're developing, are exposed to some pretty hateful stuff out there. The rise of misogyny connecting up. I don't know if you've seen Adolescence. I encourage anyone to have a look at it. It's scary. And so this is something we need to have conversations about, and we just need to do better right across the board.
Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a critiqué la fréquence des cérémonies de bienvenue au pays, Welcome to Country, les qualifiant d'exagérées et source de division. Dutton a réaffirmé son intention de ne pas se tenir devant les drapeaux aborigènes et insulaires du détroit de Torres s'il devient Premier ministre. Le sujet a refait surface ces derniers jours après qu'un néo-nazi notoire a hué une cérémonie de bienvenue au pays au Shrine of Remembrance à Melbourne lors de la cérémonie de l'Anzac Day vendredi dernier. Peter Dutton a affirmé avoir une position tranchée sur les cérémonies de bienvenue au pays.
Would you consider Anzac Day dawn ceremonies as an event significant enough to warrant a welcome to country?
No, it would be my answer to that. It's ultimately a decision for the individual organisers of the events, but listening to a lot of veterans in this space, and Anzac Day is about our veterans, it's about 103,000 Australians who have died in service of our country. I think if you're listening to their sentiment, would be that they don't want it on that day.
L'ancien ministre libéral Ken Wyatt est intervenu dans le débat, qualifiant la position de la coalition de source de division. Ken Wyatt est connu pour avoir été le premier ministre autochtone représentant les autochtones du pays et pour avoir quitté le parti libéral suite à un conflit autour de la position du parti sur le référendum Voice to Parliament. Il a déclaré sur ABC Radio National que la position de Peter Dutton ne tient pas compte de la signification des accueils et politise certains aspects des affaires et des pratiques culturelles aborigènes.
I've worked with Peter. I've had some great conversations with Peter on many issues, but on this one, if I had the chance to have a conversation with him, I'd say, pull back on this. What you're not recognising is welcome to country is just saying, come into our country, you're part of it.
Adam Bent, chef des Verts, affirme que l'intégration des soins dentaires au système Medicare serait leur principale revendication s'ils parviennent à négocier un gouvernement minoritaire après les prochaines élections. Le parti cherche à consolider son résultat des dernières élections en 2022 qui s'élevait à 12,2% des voix aux primaires, soit une augmentation de près de 2% par rapport aux élections de 2019. Il s'agit de la première élection fédérale où les jeunes électeurs sont plus nombreux que les électeurs plus âgés de la génération dite des baby boomers nés après la Seconde Guerre mondiale. Adam Bent a déclaré sur Channel 9 que les Verts ont des politiques qui, espère-t-il, trouveront un écho auprès des électeurs.
Getting dental into Medicare for everyone, it's unfinished business. Like, people are putting off going to the dentist because they simply can't afford it. And when you look at things like cost of getting kids braces, etc., it all adds up. So we want to get dental into Medicare for everyone. We want to make childcare free across the country. Start treating it like we treat primary school around the country, where it's free and universal for everyone. And we're going to tax the big corporations to pay for it, because at the moment, one in three big corporations pays no tax. And we think when a nurse pays more tax than a multinational, something's wrong.
Ailleurs dans le monde, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que la semaine à venir serait très cruciale pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Les médias d'État russes affirment que Moscou est prêt à entamer des négociations avec l'Ukraine sans condition préalable après que le président américain a mis en doute la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à cette guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie avait confirmé à plusieurs reprises sa volonté de négocier. Des responsables ukrainiens affirment que la Russie a lancé une vaste attaque de drones et des frappes aériennes en Ukraine tôt hier, tuant au moins 4 personnes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie tente de tromper le monde.
The Russians talk a lot about their alleged readiness to accept American proposals, but so far there have been no signs of the Russian army preparing for real silence. On the contrary, since Easter, the occupier has resumed its usual assault activity. Of course, at the cost of significant losses, the Russians are trying to advance, and every day of such battles at the front proves that Russia is really trying to deceive the world, to deceive America and others, and to further prolong this war.
Les élections législatives ont eu lieu hier au Canada. 29 millions d'électeurs canadiens étaient appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux 343 députés. Pour l'instant, les libéraux de Mark Carney mènent devant les conservateurs de Pierre Poilievre et le Parti libéral est donné vainqueur de ces élections. L'ombre de Donald Trump a hanté la campagne de ces législatives au Canada, mais ce n'est pas juste le contexte international qui a compté pour cet électeur de 66 ans à la sortie des urnes. Il est sur Radio France Internationale au micro de Marine de la Moissonnière.
Ben disons, c'est sûr qu'on a toujours le côté US qui nous traîne en arrière de la tête, mais c'est surtout la question de la santé mentale et tout. C'était une des priorités que j'avais pour moi, la santé. Et puis comme des raisons, voyons, les habitations, on manque d'habitations, là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue. Et puis c'est important ça aussi.
Ça, ça a compté pour vous, plus que le contexte international?
Je crois que oui. Parce que je veux dire, pour qu'on soit, il faut qu'on soit bien chez nous pour commencer, là. Je pense que c'est important qu'on prenne soin de nous-mêmes en premier lieu.
Vous regrettez qu'on ait parlé autant de Donald Trump pendant cette campagne?
Ah oui, ça c'est sûr et certain, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quand même quelque chose qui est assez gros aussi, là. C'est normal que ça sorte dans les médias, qu'on en parle tout le temps, là. On connaît Trump, hein? On n'a pas besoin de dire vraiment grand-chose, et on le connaît.
Et ça vous inquiète, vous, ces attaques?
Non. Le Canada est fort. Je crois qu'on va s'en sortir. Et puis, on est reconnu pour des gens trop polis, hein. Alors, c'est vrai qu'on est trop polis. Mais je crois qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, OK, c'est assez la politesse. Et puis, on passe à l'action. J'ai confiance.
Une grande partie de l'Espagne et du Portugal affectée par une importante panne d'électricité. La panne a aussi touché le sud de la France. Les cardinaux catholiques du monde entier se réuniront en conclave pour élire le nouveau chef de l'Église à partir du 7 mai prochain. Quelques 135 cardinaux sont éligibles pour participer au conclave et ils décideront du prochain chef de l'Église. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 26 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 18 degrés, Hobart 14, Canberra 21, Sydney 24, Brisbane 28, Darwin 30 et à Alice Springs, maximal de 24 degrés. Fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi. 13h et bientôt 15 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et je passe l'antenne à notre collègue Christophe Mallet pour le journal des sports.
Journal des sports, on débute avec du cyclisme. C'était à l'antenne de SBS ce week-end. Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des courses cyclistes mondiales qui se déroule, vous l'avez bien compris, en Belgique. Eh bien, la victoire dans l'épreuve féminine de la Liège-Bastogne-Liège femme, donc, et c'est une première par la mauricienne Kim Lecourt. Victoire au sprint et elle est plutôt contente, on l'écoute.
J'ai pas les mots, j'ai souffert un peu aujourd'hui avec la respiration. Je pouvais pas respirer. J'ai lâché plusieurs fois, mais j'ai jamais lâché coup. J'ai crampé aussi quand j'ai commencé à sprinter, mais j'ai jamais abandonné le coup et j'arrive pas à croire. C'est fou.
Kim Lecourt donc, et on va revenir d'ailleurs sur Kim Lecourt en anglais cette fois-ci. Elle nous explique la fierté de porter le maillot de la championne de Maurice.
Oh yeah, I saw a flag, a Mauritian flag on the course actually today, and I'm so proud and I'm so happy I could finally give a win. It's been always so close this whole season, and I've actually aimed for Liège-Bastogne-Liège this whole season. It's been really the last classics I really wanted to win, so can't believe we made it all together as a team.
Voilà, donc Kim Lecourt, une première pour l'île Maurice, donc première sur une victoire à ce niveau dans le cyclisme. Chez les hommes, pas de surprise, c'est Tadej Pogacar qui remporte la course avec plus d'une minute d'avance sur son second. On écoute Tadej Pogacar.
It feels great to finish the season like this. I mean, the first part of the season like this, and yeah, just happy that everything went the whole season so far went perfect, and I'm just so happy.
You decided to attack in La Redoute. Was it the plan this morning? Why did you decide to attack there?
No, actually, it was not a plan, but it was so hard paced before that. I saw that a number of teams don't have a lot of teammates anymore, and I said, okay, I test a little bit my legs and see if I get the gap on the top. Then I decided if I continue or not. But then I just committed because I had good legs also on the second climb after La Redoute. So yeah, I could go to the finish. I'm super happy.
Tadej Pogacar. La grosse surprise, par contre, ça a été la performance de Remco Evenepoel, le Belge. Il a complètement craqué dans cette course. Il nous explique pourquoi.
Pas le fond, quand t'as pas le niveau pour aller au-dessus de la limite, c'est normal que ça va pas trop bien dans un final tellement dur comme Liège. Donc faut l'accepter et puis regarder. Voilà.
Et vous attendiez, après avoir des très très bonnes jambes, des très bonnes courses pour recommencer, vous attendiez à avoir un petit coup de moins bien à un moment donné?
Ben non, on n'y pense jamais, c'est juste le prendre jour par jour, c'est ce qu'on a dit quand j'ai commencé toutes les classiques ici. On allait regarder jour par jour et j'allais être honnête avec l'équipe. Au moment que je me sentais plus trop bien, j'allais l'annoncer dans la radio et je l'ai fait. Après la redoute, j'ai directement dit que j'avais plus les meilleures jambes, donc fallait plus compter sur moi. C'est comme ça, il faut l'accepter et puis regarder vers l'avant et essayer de me pousser encore plus vers le haut, de retrouver un bon niveau. Et puis avec le Tour de Romandie, je vais essayer cela encore. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses beaucoup plus graves que ceci.
Remco Evenepoel, donc, sur sa performance à Liège-Bastogne-Liège. Allez, on parle de football maintenant et direction, eh bien, l'Angleterre. On ne peut pas passer à travers le sacre de Liverpool. Donc, Liverpool champion de la Premiership. Et ce, pour la première fois depuis 2020, l'année Covid. Donc, Liverpool plutôt en joie, comme nous l'explique Victor Missisrano.
Déjà l'heure de célébrer pour les Reds avec ce mythique You'll Never Walk Alone à Anfield. Les frissons, voilà. Mohamed Salah et ses coéquipiers n'avaient besoin que d'un nul contre Tottenham, mais pour que la fête soit totale, ils se sont largement imposés. 5 buts à 1, avec une 28e réalisation pour l'Égyptien, meilleur buteur et passeur du championnat. Il a grandement contribué donc au 20e titre de l'histoire du club, tout comme Ibrahima Konaté, le défenseur français qui revient sur cette journée qu'il n'oubliera jamais.
Dès l'arrivée au stade, en toute humilité, je savais qu'on allait gagner parce que c'était spécial. Ce qu'on ressentait, c'était inédit. Même les joueurs dans le bus, ils n'étaient même pas à leur place. On était tous debout en train de regarder ce que les fans y faisaient. Et encore plus aujourd'hui, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe. Même s'il reste quelques matchs, mais là on a pris le game et c'est fini. Hein.
C'était donc Ibrahima Konaté, l'international français et joueur donc de Liverpool et champion de la Premiership anglaise. Et avant de parler du football en France, on va parler en Espagne et la victoire du Barça dans la Copa del Rey, la Coupe du Roi, contre le Real de Madrid de Kylian Mbappé. On écoute Antoine Grenier.
Le club catalan qui a arraché la prolongation face au Real Madrid, mais finalement vainqueur sur un dernier coup de canon de Jules Koundé à la 115e minute. Le Barça s'impose 3 buts à 2, remporte son 3e Classico de la saison et sa 32e Coupe du Roi. Ferran Torres, l'homme qui a relancé un Barça en difficulté en inscrivant le but du 2 partout à la 84e minute, louait les qualités mentales des Blaugrana.
Nous ne perdons jamais espoir jusqu'au bout et nous l'avons prouvé aujourd'hui. Ça a été un match très difficile pour nous, mais même si notre équipe est jeune, elle est capable d'aller chercher une mentalité de gagnant. On y a mis notre cœur, notre volonté et c'est ce qui nous a permis de renverser la situation.
Et al final hemos dado la vuelta.
C'était Ferran Torres donc pour le Barça sur cette victoire dans la Coupe del Rey. Allez, je vous le disais, on va parler maintenant de football en France et les résultats de la 31e journée. Et Paris n'est pas invincible. Défaite des Parisiens sur leur terrain au Parc des Princes, 3-1 face à Nice. On écoute le commentaire de l'entraîneur niçois, Franck Hayes.
On sait que contre Paris, vous n'allez pas avoir déjà beaucoup le ballon. Et j'avais pas des gros profils pour commencer le match avec des fortes transitions. Donc j'avais fait ce choix-là. Mais donc on avait l'image de nos deux premiers buts, des choses à faire sur des attaques placées, bien sûr rapides, mais il fallait le faire. Et puis aussi, on avait ciblé évidemment les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, au match aller, quand on a fait un 1 chez nous, on a marqué sur un coup de pied arrêté. Et eux avaient d'ailleurs égalisé sur un coup de pied arrêté aussi. Mais on en a reparlé évidemment et on a, bon, comme d'habitude, travaillé, quoi, oui, c'est certain.
Franck Hayes, donc l'entraîneur niçois après cette victoire de l'OGC Nice 3-1 face au Paris Saint-Germain. Les autres résultats, Strasbourg bat Saint-Etienne sur le score de 3-1 également. Le Havre et Monaco font match nul 1 partout. Lille bat Angers sur le score de 2-0. Montpellier qui est déjà relégué en deuxième division, donc en Ligue 2. Montpellier qui fait match nul face à Reims 0-0. Auxerre qui balance sur leur terrain sur le score de 4-1. Toulouse et Nantes font match nul 0-0. Lyon bat Rennes sur le score de 4-1. À noter un triplé de Ryan Cherki, triplé pour un retour sous le maillot lyonnais. On l'écoute.
On a essayé de faire une prestation pleine du début à la fin. Je pense que c'est une victoire amplement méritée. Maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée pour pouvoir grappiller le maximum de points vu le classement. Quand on voit la semaine qu'on a passée, c'est une semaine très compliquée en tant que compétiteur. Maintenant, la seule envie qu'on avait, c'était refouler la pelouse pour montrer à tout le monde que ce qui ne chante pas nous rend plus forts. Donc aujourd'hui, c'est chose faite.
Ryan Cherki donc auteur d'un triplé pour Lyon. Et l'autre match, eh bien, c'est Marseille qui bat Brest sur le score de 4-1. Très belle victoire des Marseillais au stade Vélodrome. On écoute Amine Guiri sur son triplé.
Et c'était important de gagner parce qu'on a commencé le match en étant quatrième. Et c'est vrai que ça fait pas plaisir. Donc on avait à cœur de gagner. Je pense qu'on a fait un très bon match et surtout on a gagné avec la manière. Franchement, c'est un stade, comme j'ai dit, hein, ça fait toujours plaisir de marquer et d'entendre son nom.
Amine Guiri, donc joueur algérien et joueur de l'Olympique de Marseille. Au classement, vous le savez, le Paris Saint-Germain est déjà champion avec 78 points. Marseille est deuxième avec 58 points. Lille est troisième avec 56 points. Monaco est quatrième, 55 points. Et Lyon revient à la cinquième place avec 54 points. En bas de classement, Le Havre est 16e avec 28 points. 17e pour Saint-Etienne, 27 points. Et je vous le disais, Montpellier qui est déjà relégué en Ligue 2 avec 16 points. Et ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Écoutez le programme en français. Et je repasse l'antenne à notre collègue Christophe Mallet pour la semaine politique. Il est en compagnie de Patricia Meunier.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Allez, semaine politique maintenant sur SBS, le journal politique, et jusqu'au dernier jour de l'élection, eh bien le Premier ministre Anthony Albanese et le chef de la coalition Peter Dutton continueront de déployer leur campagne. Jusqu'à présent, les deux hommes politiques n'ont cessé de faire des annonces pour améliorer la crise du logement, sur les pressions du coût de la vie ou encore sur la santé. Et dernièrement, l'augmentation des dépenses de défense pour renforcer la sécurité de l'Australie au vu du contexte géopolitique mondial les oppose. Les explications de Patricia Meunier.
Plus que quelques jours avant la fin des élections fédérales, le 3 mai 2025. Les deux grands partis, les libéraux et les travaillistes, sont au coude à coude dans la dernière ligne droite. L'Australie semble divisée. Dimanche soir, le dernier débat télévisé entre l'actuel Premier ministre Anthony Albanese et le leader de l'opposition, Peter Dutton, semble montrer une préférence envers le parti au pouvoir. Les dirigeants ont été interrogés sur l'économie, le logement, Donald Trump et même le prix des œufs. Anthony Albanese propose de continuer à construire l'avenir de l'Australie sans revenir au passé. On l'écoute.
Labor has a real plan for cost of living support today, whilst building with investment for tomorrow. Tax cuts for every Australian taxpayer, strengthening Medicare, including through our 1800 Medicare line. Making more things here in Australia, 20% cut in student debt and a 5% deposit. For first homeowners.
Le thème de la défense les oppose aussi. Le chef de la coalition continue de pointer du doigt la Chine comme la plus grande menace pour l'Australie. Comme durant la campagne, la sécurité nationale a donc été largement au cœur de ce débat. Peter Dutton s'inquiète du potentiel de conflit dans notre région et de ses conséquences pour le commerce. Il a déjà annoncé une augmentation des dépenses de défense s'il est élu, soit quelque 3% du PIB d'ici 10 ans, contre 2% actuellement. On l'écoute.
It will be an important expenditure. Because we need to keep our country safe. And if we're to preserve peace and stability in our region, if we're to be a good ally with our partners, then Australia needs to invest in defence.
En chiffres, ces dépenses s'élèveraient à plus de 134 milliards de dollars par an. De son côté, le Parti travailliste a des ambitions plus modestes en ce qui concerne la défense. Il prévoit de porter les dépenses à 2,2% d'ici 5 ans. Andrew Carr, professeur à l'Australian National University, nous explique en quoi constituent ces dépenses.
GDP has long been used as a very informal proxy for defence spending. It's not a great measurement. It can go up and down as we move into growth periods or recession. It is untied to what we might spend in an actual conflict, but it tells us, you know, how much of the budget is the government actually spending on our security. Unfortunately, it doesn't really tell us what they're spending it on. Or how directly that addresses the big security problems we face.
Peter Dutton n'a pas donné beaucoup de détails sur l'affectation de ces dépenses. On écoute la critique du ministre de la Défense, Richard Marles.
What we have is a complete absence on the part of the coalition to do any work in relation to defence policy at all. Throwing out a number and doing nothing to back it up, not explain how you will raise the money or how you will spend it, does not equate to increased defence spending. There was no single new capability announced in the coalition's defence policy today. We do believe that there needs to be an increase in defence spending. That's why under Labor, you've seen the biggest peacetime increase in defence spending in Australia's history.
Le vote anticipé se poursuit encore cette semaine avec une participation record cette année et avec un demi-million d'Australiens qui ont voté au premier jour d'ouverture des bureaux de vote.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
13h36 minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à la série Australia Explains sur le thème « Comment voter aux élections fédérales ».
Vous êtes avec Radio SBS en français.
D'Australiens sont inscrits pour voter lors des prochaines élections fédérales australiennes le 3 mai 2025. En Australie, c'est un organisme indépendant qui gère le système électoral. La Commission électorale australienne, l'AEC, fait en sorte que tous les citoyens australiens qui bénéficient du droit de vote puissent donner leur voix pour élire le futur gouvernement fédéral. Dans cet épisode d'Australia Explained, on vous explique comment voter lors des prochaines élections fédérales australiennes si vous y êtes éligible. Le jour du scrutin, la commission électorale australienne se prépare à accueillir près d'un million de votants chaque heure sur l'ensemble des bureaux de vote du pays. En Australie, le vote est obligatoire si vous êtes inscrit sur les listes électorales. Vous devez aussi voter dans votre propre circonscription. C'est ce qu'explique Jess Lilly, porte-parole de la commission électorale australienne, l'AEC.
We've got a great tool on the website, aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services.
L'AEC va gérer des milliers de bureaux de vote le jour de l'élection. Des écoles locales, des centres communautaires ou encore des églises sont généralement mis à disposition pour accueillir les électeurs. La liste des différents bureaux de vote autour de vous est disponible sur le site de la Commission électorale australienne.
You'll be able to input your suburb and your postcode, and our tool will help you find who your candidates are, as well as where you can actually cast your vote.
Dans les bureaux de vote, il est possible de se renseigner sur les modalités du scrutin, mais aussi de trouver de l'aide dans plusieurs langues. Evan Akin-Smith, un autre porte-parole de la Commission électorale australienne, ajoute que le site web de l'AOC met aussi à disposition toutes les ressources pour vous guider au fil des élections.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote.
Des équipes mobiles de l'AEC vont également se rendre dans les maisons de retraite, les prisons, les hôpitaux et les communautés isolées pour faire en sorte que tout le monde puisse voter. Et si certains électeurs ne peuvent pas se rendre dans un bureau de vote le jour du scrutin, tout est prévu grâce au vote par correspondance ou bien au vote anticipé.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Si vous prévoyez de voyager dans un autre état le jour du scrutin, il vous sera possible de voter par correspondance ou bien de voter dans un bureau permettant le vote inter-état. Et même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez voter. Des formulaires de notification d'un voyage à l'étranger sont disponibles sur le site web de l'AEC, tout comme d'autres options adaptées à votre situation personnelle. Certains hauts commissariats australiens proposent également des bureaux de vote. Le jour du scrutin, devant le bureau de vote que vous aurez choisi, vous verrez à coup sûr des militants de différents partis politiques. Ils vous tendront des « How to vote » cards, des flyers, vous donnant leurs recommandations de vote. Mais ne vous laissez pas influencer, ce ne sont que des recommandations, rien ne vous oblige à les suivre. C'est ce qu'explique William Bow, analyste électoral.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
Lors des élections fédérales, vous n'allez pas élire directement le Premier ministre australien. Vous allez surtout choisir votre député local. Le choix du Premier ministre interviendra, lui, un peu plus tard dans le processus.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament, and you will not be voting for that leader directly.
Au bureau de vote, vous allez recevoir deux bulletins, un vert et un blanc. Le bulletin de vote vert vous permettra de voter pour un député de votre circonscription qui siégera en cas d'élection à la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement australien. Il y a actuellement 150 sièges à la Chambre des représentants, représentant chaque circonscription électorale du pays.
It's in the lower house that the government is formed, and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
Et c'est le leader du parti qui aura obtenu le plus de sièges qui sera nommé Premier ministre. Mais comment utiliser ce bulletin de vote vert ? Eh bien, il suffit d'inscrire le chiffre 1 dans la case située en face du candidat que vous préférez, puis 2 devant votre second choix, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cases soient numérotées. Le second bulletin de vote, le blanc, va lui vous permettre d'élire un sénateur ou une sénatrice à la chambre haute du Parlement, le Sénat, composé de 76 sièges. Vous voterez pour un candidat de votre propre état ou territoire, alors le vote est légèrement différent, rappelle William Bowe. Et si ces bulletins de vote blancs pourront vous sembler intimidants et très longs, c'est parce qu'ils incluent tous les candidats de votre état.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your six favorite parties and number them in order of your preference from one to six. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes.
Ce système de vote, eh bien ça s'appelle le vote préférentiel. Numéroter vos candidats par ordre de préférence permet à votre vote d'avoir davantage de poids. Maintenant, pour savoir comment un candidat gagne un siège au Parlement, je vais laisser William Bowe vous expliquer.
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates. You look at those ballot papers again. And then you move those votes on to whoever they put second. And you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote.
Pour que votre vote soit comptabilisé, il y a quelques consignes à suivre. Si vous ne les respectez pas, votre bulletin devient alors un vote informel et il ne sera pas pris en compte lors du dépouillement. Parmi les exemples classiques de vote informel, on retrouve l'inscription d'une croix et d'un symbole dans la case réservée aux chiffres face au nom des candidats, mais aussi l'inscription de quelconque annotation sur le bulletin qui pourrait permettre de vous identifier. Le vote doit en effet rester anonyme. En Australie, le vote est également obligatoire. Les motifs valables d'abstention sont à la discrétion de la Commission électorale australienne qui évaluera votre situation. L'AEC comprend par exemple que certaines personnes se trouvant à l'étranger puissent ne pas être en mesure de voter. Mais si vous êtes éligible, que vous ne votez pas et que vous n'avez pas d'excuses particulières, attention, vous pouvez écoper d'une amende, comme l'explique Evan Akinsmith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
Mais la véritable sanction, cependant, c'est de ne pas avoir votre mot à dire, de ne pas pouvoir donner votre voix. Alors renseignez-vous sur les modalités de vote, sur les candidats et les programmes, et votez de manière informée. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Commission électorale australienne, ou bien appeler le 13 23 26. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Australia Explained, un épisode écrit par Melissa Compagnoni et traduit en français par moi-même, Léo Roussel.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à la série SBS Examines, droite ou gauche, et la question, où vous situez-vous sur l'échiquier politique? SBS French vous explique tout ça.
SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
On May 9th, we're going blue for Do It For Dolly Day. Blue to remind every young person they're not alone. Let's come together to go blue to end bullying. Register at doitfordollyday.org.au.
SBS acknowledges the traditional custodians of country
and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways across Australia.
Vous décririez-vous comme étant de droite ou de gauche? Pendant des années, ces étiquettes ont été utilisées pour décrire où se situent les partis politiques. Ceux de gauche croient en des valeurs plus progressistes, tandis que ceux de la droite, de l'échiquier politique, croient en des valeurs plus conservatrices. Ces étiquettes sont-elles encore utiles aujourd'hui et nous aident-elles vraiment à comprendre ce que défendent nos politiciens et nos partis?
The spectrum is depicted as a line. So on the left are those parties that typically advocate for things like social equality, more government intervention, progressive economic and social policies, dealing with environmental issues. Then on the right are those that typically emphasize tradition and authority, limited forms of government, tend to be pro-market and pushing for deregulation of markets.
Shannon Brincat est maître de conférence en politique et relations internationales à l'Université de la Sunshine Coast. Il dit que le terme « gauche » ne résume pas entièrement le Parti travailliste.
So the Australian Labor Party is best described as a centre-left party, but with increasingly moderate policies. Traditionally, the ALP supported worker rights, was strongly represented by the trade union movement, created Medicare and pushes for universal healthcare, was more interested in climate action than other parties, and has generally been quite progressive on certain social issues, you know, the voice referendum, LGBTQ rights, and so on. The analysis, though, if you look at the policies, I would say is becoming more centrist, more moderate in practice over time.
Simon Burns a grandi dans une région rurale de la Nouvelle-Galles du Sud, dans une famille de bûcherons votant conservateurs. Pourtant, il n'a pas suivi leurs traces.
I'm a lefty. There's no delusions about it. I'm here for progressive policy. I think that LGBTQI communities are a critical part of our ecosystem as a country. I don't think that you should be treated differently for, you know, having a disability or being a person of colour or having a different religion. I think that that actually makes us better as a country, having that diversity.
Mohib Iqbal est venu en Australie d'Afghanistan sous un visa étudiant. Ensuite, il a demandé l'asile, puis il est devenu citoyen en 2017.
I was ready to sort of make a choice where I fell on the political spectrum, which is to the left of the center, I would say. The key decision came to me was which party was more sort of pro-multiculturalism, had more views and policies that were more accommodating for migrant and refugee background population.
Pour le docteur Brincat, qu'on entendait plus tôt, les partis de la coalition sont de droite et se déplacent de plus en plus vers l'extrême droite sur l'échiquier politique.
I think this election will really test how far this will go. Dutton has said he is interested in bringing a more Trump-style politics. The Liberal Party, traditionally, I guess, would be more centre-right, but increasingly more far-right. We have to look at the factions within the Liberal Party to really see where it's going. Generally speaking, the economic policies supporting tax cuts, favouring deregulation, privatisation of key industries, against any wealth redistribution. Social policies, very conservative. Slow on LGBTQ rights, climate scepticism, even denial.
Calvin Billag dit qu'il votera pour la droite. Ni maltais, ni philippin, ce jeune homme de 22 ans adhère à des valeurs chrétiennes conservatrices.
Because the values in which I see as important, the inalienable right of freedom, the importance of a good and strong economy, less government being better government.
En général, la jeune génération vote plutôt à gauche, mais Calvin a décidé qu'il voterait à droite dès ses 18 ans.
Around that age, once I looked at what I believed in, and I think it's fair to say, as you get older, your views and opinions I've had on certain things have changed, but those core foundations of values, that's very important to me.
Steve Coe, 65 ans, a déménagé en Australie depuis l'Indonésie quand il était jeune. Ses valeurs politiques étaient d'abord de gauche, mais il s'identifie maintenant comme centre-droit sur le spectre politique.
I'm family first, the family unit, trying to keep it together. I'm very much into a small government, a market-based economy. I'm very much into preserving freedom of all kind, from freedom of expression to association of religion or faith, all that kind of freedoms. And I can say to you firsthand, because that's why our family fled Indonesia for our own freedom. I guess I tell you what I'm not into. I'm not into the current flavor of the month, which is, without being disrespectful, I'm not into wokeism, into cancel culture, into gender issues or identity politics and all that kind of stuff. I just want it to be as real as is possible. No delusion.
Les idéaux politiques mondiaux ont été étiquetés et séparés en deux camps, donc gauche et droite, depuis la Révolution française en 1789.
The assembly, the people sat according to where they saw the revolution going. Like the Jacobins sat on the left, who wanted to extend the revolution, promote more revolutionary change, equality, and then to the right were those who were more pushing for arrest the revolution, provide more stability and retain some forms of the traditional hierarchy. So that idea of the horseshoe and how they actually sat, you can see elements of that today even within our own parliamentary seating, right? But rather than being left or right divided ideologically, it's more if you're in government, you sit on the right, if you're in opposition, you sit on the left.
Plus de deux siècles plus tard, le docteur Brincat réfléchit à l'utilité de ces anciennes étiquettes politiques de nos jours.
It's a nice way to start thinking about things, to get a very broad picture and understanding of the ideological differences at that sort of big macro scale. And so it's very useful, especially for first-time voters or people that are time poor to engage politically. But I would always suggest going deeper to ensure that the policies of a particular party that you may vote for do align with what you actually want politics to achieve over the next 3 or 4 years.
Cet épisode a été produit par Alex Tarny et Olivia Diorio, puis présenté par Marianne Murat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/examines.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Et en fin d'émission, un rappel des titres du journal de ce mardi 29 avril. Le Parti travailliste a publié ses estimations budgétaires préélectorales afin de contraindre la coalition à publier ses propres calculs. La coalition a cherché à attribuer la responsabilité de la hausse du coût de la vie au Premier ministre. Et puis l'ancien ministre libéral Ken Wyatt est intervenu dans le débat des cérémonies de bienvenue au pays, Welcome to Country, qualifiant la position de la coalition de source de division. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Bel après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.